Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala ila yawmiddin, wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Chers frères et sœurs, toutes les louanges reviennent à Allah Rabbul Izza qui nous permet de continuer le programme et après avoir fait 5 ou 6 interventions autour de ce qu'on appelle le tahsin al-sawm, l'amélioration et la perfection du jeûne, à travers quelques conseils concernant le fait de préserver son cœur des mauvaises pensées, de rester éloigné du haram, de faire le maximum de bonnes œuvres. Nous commençons à partir de ce vendredi 22 mars 2024, nous commençons un jour, un verset, Inch'Allah. Nous commençons l'étude de quelques versets, mais c'est vraiment en mode de Mukhtasar speed. C'est pas comme les tafsirs un peu plus développés du vendredi soir au Latani. Là, on est vraiment dans des thématique précise, la thématique qu'on veut extraire du verset et non pas le tafsir de l'ensemble du verset sélectionné, la traduction et la leçon à retenir, et nous essayons de limiter l'intervention à 15 minutes maximum afin que nous allions vers l'essentiel. Et l'objectif, c'est de retenir le message le plus important qu'il y a dans le verset. Nous sommes aujourd'hui dans la sourate Al-Imran. On ne va pas forcément respecter l'ordre des ajzaï, des surates, ça va être en fonction des thèmes que nous voulons mettre en avant. Nous sommes de la surate Ali Imran, le verset 31. A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard wallahu ala kulli shay'in qadir. Traduction dit que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou bien vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omnipotent. Allama Sa'di rahimahullah, dans son tafsir, explique que notre Seigneur, dans la sourate Al-Imran, révèle au prophète alayhi salatu wassalam, afin qu'il nous propage, qu'il nous dise, et que ce soit un rappel pour chaque croyant jusqu'à la fin des temps, n'oublie jamais, ô musulmans, ô musulmanes, qu'Allah sait exactement ce qu'il y a dans ton cœur. Et si j'intègre le fait qu'Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur, ce que je pense donc intérieurement, comprenons silencieusement, des choses que les gens qui sont autour de moi n'en ont même pas conscience. Des fois, on est capable de cacher des secrets intérieurs que même vos proches, vos enfants, vos parents ne connaissent pas. Mais Allah Rabbul Izzah est le seul qui sait et qui lit et qui entend ce qui circule comme afkar, comme pensée dans ton cœur. Donc, comprends que si Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur, sans le moindre doute, Allah sait et voit ce que tu fais, ce que tu dis, Allah entend ce que tu dis, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment pousser au maximum de muraqabatullah, de pensée permanente d'Allah, c'est une des actions du cœur importante, prendre conscience qu'Allah me voit, m'entend et sait ce qu'il y a dans mon cœur. Allah connaît également mes pensées. Donc, Sa'di dit, « Akhbar an si'ati ilmihi, lima fin nufusi khususan » Alors, Allah Rabbul Izza nous donne comme information à la fin du verset qu'il sait de façon globale tout ce qui se passe dans les cieux et sur terre. Allah en est conscient et Allah est au courant, parce que rien ne se passe, ne se produit sans l'ordre et l'autorisation d'Allah. Ça nous ramène vers un autre verset, que il n'y a pas une feuille, comprenez, une feuille d'arbre qui tombe sans qu'Allah n'en ait conscience, sans qu'Allah n'en donne l'autorisation, sans qu'Allah ne le décrète. Et donc ça, en ce genre de métaphore, ça dépasse l'entendement, ça te donne matière à réflexion à un tel point où, voilà, on sent notre limite de compréhension au niveau humain, le nombre des milliards et des milliards d'arbres qu'il y a de moins en moins, malheureusement, mais il y en a encore des milliards, alhamdulillah, sur Terre, et le nombre de feuilles qui viennent avec. Si on devait juste compter le nombre de feuilles sur un manguier, sur un pied de litchi ou un pied de longani, pour regarder des exemples 974, on va dire, personne ne ferait ça, personne n'irait compter le nombre de feuilles, c'est impossible. Maintenant, les arbres du monde entier, il n'y a pas une feuille qui tombe sans que notre Seigneur n'en soit conscient. On va dire que oui, mais des feuilles qui tombent comment? Avec le vent. Maintenant, excusez-moi, mais je vais un peu loin dans les pensées. Si c'est un jardinier qui est en train de tailler une haie ou en train d'élaguer un arbre avant un cyclone et tout, oui, toutes ces feuilles qui tombent sont également sous la connaissance d'Allah. C'est une métaphore, une parabole poussée à l'extrême, mais c'est un extrême qui est réel. C'est pas une métaphore juste pour dire, pour parler, pour que on n'est pas dans des poèmes pour extrapoler. Non, c'est une réalité. Allah sait exactement ce qui se passe dans le monde végétal, et le monde végétal qui est beaucoup plus nombreux, plus présent que le monde des humains et le monde des animaux. Donc si j'intègre qu'Allah sait tout ce qui se passe sur cette terre, et là on passe à un niveau au-dessus, Allah sait tout ce qui se passe dans les cieux. Et ce qui se passe sur Terre, aucun scientifique, aucun savant, même avec les radars, avec les satellites, je voulais dire, de la NASA, de je ne sais pas, et ainsi de suite, tout ce qu'il y a comme mode d'observation, parce qu'on n'est pas encore entré dans la phase de guerre des satellites, mais c'est pour bientôt, je pense, d'accord ? Même s'il y a une surveillance permanente de tout ce qui se fait, et on sait qu'avec, Google, pas Google Maps, mais il y a des outils, bien sûr, professionnels que les armées utilisent et tout, bah vous bougez d'un point A à un point B, et subhanallah, au niveau des satellites, on voit exactement ce qui se passe, mais aucun être humain, malgré la technologie que nous avons développé, ne peut savoir tout ce qui se passe sur Terre, et Allah le sait. Maintenant, ce qui se passe dans les cieux, ça personne, aucun être humain ne peut le savoir. On peut juste avoir un visuel sur un satellite, sur une mission spécifique. Vous voyez, quand il y a, ils envoient quelque chose, hein, je sais pas comment ça s'appelle, une navette ou un robot sur Mars, ou je sais pas si c'est arrivé sur Mars d'ailleurs, il me semble que oui, et ainsi de suite. On a des images et tout ça, d'accord, très bien, mais ça se limite à ça. D'accord ? On ne pourrait jamais savoir ce qui se passe sur Pluton, Neptune, Saturne en même temps, impossible. Donc ce qui se passe dans les cieux, et là les planètes que j'ai citées, ça fait partie de notre système solaire. Maintenant les autres systèmes solaires et tout ce qui monte jusqu'au septième ciel, là il y a un lamouhu illallah. Ça dépasse largement l'entendement. Donc ô musulmans, ô croyants, réalise que ton Seigneur sait tout ce qui se passe sur Terre. Réalise que ton Seigneur sait ce que tu n'imagines même pas, ce qui se passe dans les cieux. Et en amont, n'oublie pas qu'Allah sait ce qu'il y a de ton cœur. Ça, c'est la connaissance illimitée d'Allah. Et c'est une thématique que je vous invite à travailler en lisant le nom d'Allah, Al-Alim, celui qui connaît, qui a connaissance de tout. Celui qui a connaissance de tout. Et ça, ça permet de garder éveillé le muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah. Donc, As-Sa'di, rahimahullah, dit « Fafihi irshadun ila tathiri al-qulubi » À travers ce verset, c'est pour ça qu'on aime beaucoup Allama Sa'di, comme on l'avait dit, on l'a expliqué dimanche dans le grand programme, que Sa'di te donne les informations qui te seront profitables immédiatement, à mettre en pratique maintenant pour qu'il y ait un effet immédiat. Et non pas des thèses, et non pas beaucoup de développement. Il dit qu'à travers ce verset, tu comprends qu'il est nécessaire de tathirul qulub. On reste encore sur cette thématique. Il est essentiel de purifier ton cœur. Pourquoi on insiste encore? Parce que le jeûne fait partie des actions qui purifient le cœur. C'est-à-dire que Allah te donne la possibilité de laver ton cœur de tous ces points noirs et tous les défauts qui sont incrustés dans ce cœur depuis des années, depuis ta jeunesse, depuis que tu pratiques le dîn, il y a des manquements, des erreurs, des défauts, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Quand tu es en état de jeûne, le somme te permet d'enlever tout ça, à condition que tu fais ce somme correctement et que tu fais un effort sur ton cœur. C'est pour ça qu'on insiste. Donc profitons de ce pilier de l'islam, de cette action pour rénover, lustrer, si je peux me permettre, et faire briller notre cœur pour que ce cœur soit réceptif à la lumière d'Allah, à la lumière qui vient d'Allah, à la lumière qui vient de la parole d'Allah et de la parole de notre prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wa salam. Donc, As-Sa'di dit, dans ce verset, je reprends, il y a l'incitation pour que le croyant purifie son cœur, وَاسْتِحْضَارِ عِلْمِ اللَّهِ فِي كُلِّ وَقْتِ, et que le croyant n'oublie jamais la connaissance illimitée omniprésente d'Allah à chaque instant. Et c'est là qu'on a la leçon que je vais appliquer tout de suite. C'est là que c'est très beau, c'est magnifique. Je lis parce que c'est beau. فَيَسْتَحْيِ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَرَى قَلْبَهُ مَحَلًا لِكُلِّ فِكْرٍ رَدِي. Ainsi le croyant aura honte, et ça c'est une action du cœur important que j'avais souligné samedi, الْحَيَاءُ مِنَ اللَّهِ, avoir honte. Ça veut dire quoi avoir honte? Avoir honte de désobéir à Allah. Avoir honte que notre Seigneur nous voit dans la désobéissance, ce qui implique de savoir que, d'être conscient qu'Allah nous voit. Donc tu sais qu'Allah te voit et donc tu as honte de faire un pas vers telle chose qui est haram ou de consommer telle chose qui est haram ou de parler avec telle personne alors que c'est une conversation qui est mal intentionnée. D'accord? فَيَسْتَحْيِ الْعَبْدُ, et ainsi le serviteur a honte de désobéir à son Seigneur, non, plutôt que le serviteur a honte que son Seigneur le voit de la désobéissance et voit de son cœur la moindre présence de mauvaise pensée ou de mauvaise intention. L'intention même de faire un péché ne doit pas naître et émerger de ton cœur, parce que tu sais qu'Allah scrute et voit ton cœur. Il y a aujourd'hui, je pense que la population mondiale est de 8 milliards à peu près, je pense, hein, c'est 7 ou 8 milliards, et il n'y a pas une seconde qui passe sans que notre cerveau s'agite et que nos cœurs soient remplis de pensées, sauf quand on dort bien sûr. Et donc même si 8 milliards de personnes pensaient à mille et une choses en même temps, il y a des fois où dans la tête ça se bouscule, hein, les pensées, c'est en période de stress et d'angoisse, on pense à plein de choses et il n'y a pas, je voulais dire, même si 8 milliards de personnes pensaient à mille et une choses en même temps à l'instant T, Allah lit et c'est exactement ce qu'il y a dans nos pensées, c'est un niveau de ilm. Kama yaliqu bihi azza wa jal, cela appartient uniquement à Allah et Allah est le seul qui le sait. Juste pour remettre les choses en place, il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas, il y a des choses que l'ange Jibril alayhi sallam ne savait pas. Par exemple le qiyam, hein, on connaît le hadith très connu sur la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui questionne ne connaît pas mieux que celui qui est interrogé. Pour qu'on comprenne que les créatures, quel que soit le niveau, on parle du meilleur des anges et du meilleur des hommes, personne n'a une connaissance parfaite et complète. Le seul qui connaît tout, c'est notre Seigneur Rabbul Izzah, parce que c'est lui qui crée tout. Ce que je retiens, c'est que mon Seigneur lit ce qu'il y a dans mon cœur, donc je ne dois pas laisser s'installer une intention de désobéir à Allah, parce qu'Allah le lit et le sait, et encore moins laisser concrétiser cette pensée. C'est le moi par excellence où je dois, je vais le dire, étouffer dans le nid, étouffer directement dans mon cœur les mauvaises pensées et les mauvaises intentions. Et quand Shaitan nous insuffle quelque chose de mauvais, on doit dire « A'udhu billahi minash shaitan rajim » et d'autres invocations qu'on aura peut-être l'occasion de soit de citer, des douas qu'un frère m'avait demandé, des douas pour demander protection et isti'ada contre les péchés. Je vais envoyer quelques invocations, mais là je ne les ai pas sous les yeux. Mais voilà, lire ces douas peut-être régulièrement, et quand il y a waswasa de shaitan, demander Allah sa protection. Naam. Et donc ensuite, à Saadi, il va toujours vers le positif. Il dit attention, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais ensuite, il te dit qu'est-ce que tu dois mettre en place. Il dit bal yushri l'afkarahu fima yuqarribuhu ilallah. Le croyant se doit de laisser son esprit occupé en permanence à la recherche de ce qui plaira à Allah Rabbul Izzah. Que ce soit un dhikrullah, une parole de bien, l'étude du Coran, faire une bonne action, apprendre quelque chose, ou même quelque chose qui est neutre. Moi, je dis ça comme neutre, mais si c'est bien intentionné, ce sera source de récompense. Quand un homme travaille pour apporter sa subsistance, pour sa famille, c'est une bonne action. Le faire en se disant que je le fais pour m'acquitter de mon devoir envers mon Seigneur, et ce sera là également source de bonnes actions et de sera source de récompense. Je me reprends légèrement quand j'ai dit, ce n'était pas un lapsus, ce n'était pas volontaire ou pas involontaire non plus, hein, quand je dis quand un homme est au travail pour apporter la subsistance à sa famille, j'ai pas dit une femme. Pourquoi? Ça veut pas dire que les femmes ne travaillent pas, non, mais la femme, c'est une parenthèse, je vais essayer de le verser, n'a pas à se soucier de la subsistance de sa famille. Une femme qui travaille, elle peut le faire, tant qu'elle respecte les conditions, les règles, ça ne va pas aborder le sujet. Elle peut exercer n'importe quel métier, et ce serait vraiment bien, qu'elle ait un métier qui soit profitable, et ainsi de suite. Mais le souci alimentaire, ce n'est pas son problème. C'est la responsabilité de son époux, du mari. C'est pour ça qu'Allah Rabbul Izzah révèle « Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala an-Nisa ». J'ai expliqué ça avec, on va dire, un peu plus de détails aux élèves récemment, quand on évoquait l'héritage et ce que parfois ceux qui n'ont pas iman, qui n'ont pas la foi, n'hésitent pas une seconde à pointer du doigt le fait que dans l'islam, l'homme a le double de la part de la femme en héritage, et que c'est une injustice. Et parfois on essaie de rééquilibrer les choses et d'expliquer que à la base, ce qu'Allah demande à l'homme, ben, ça n'a rien à voir avec ce qu'il demande à la femme, à l'épouse. Je parle de la famille, du foyer. L'homme se doit d'apporter la subsistance. C'est l'homme qui paie le loyer, les impôts, taxes d'habitation, si on a encore à payer. Si on est fortuné, on ne paie pas, normalement. La TOM, la facture d'électricité, de courant, le gaz, la suite, l'arrêt, avec les courses. Tout ça, c'est, machallah, sous la responsabilité du père de famille. Si l'épouse travaille, son argent, c'est pour elle, uniquement. En aucun cas, le mari ne peut exiger. Maintenant, s'il y a un commun accord, parce que les charges sont très lourdes, et effectivement, à notre époque, les charges sont très lourdes, c'est compliqué de se suffire d'un salaire. Maintenant, s'il y a un accord commun, pour se partager les frais. Si l'épouse est d'accord, oui, autrement, c'est la responsabilité. Donc, c'est pour ça que, voilà, je tenais à préciser pour pas qu'il y ait une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension. Je disais donc, et voilà, le croyant se doit d'occuper son temps, ses pensées, et faire en sorte qu'il reste dans l'obéissance. Et l'obéissance, ce sont les bonnes œuvres, mais les actes du quotidien qui ont pour but de s'acquitter de ses engagements seront également considérés, inshallah, comme des actes d'obéissance. Et ensuite, Saadi fait le lien avec le prochain verset, dit que quand ton Seigneur te révèle qu'il sait ce que tu fais, il voit ce que tu fais, il entend ce que tu fais, et qu'Allah sait ce qu'il y a de ton cœur et te met en garde contre la désobéissance depuis les pensées et les actes, et les paroles, et te demande de faire attention à tes bonnes œuvres, l'objectif c'est que tu te prépares pour le moment où tu vas rendre compte de ses actions, et c'est là qu'il y a le lien avec le verset suivant. C'est un enchaînement, un lien qui est très profitable. Ça permet de bien comprendre l'enchaînement des versets. Et là, Saadi commente le prochain verset. Je lis: Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khayrin muhdara wa ma 'amilat min su'. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal. Ce verset rejoint un verset que nous mémorisons tous, que nos enfants connaissent par cœur, qu'ils ont déjà appris la madrasa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَوْا مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَوْا On est dans la sourate إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Et certainement, nos enfants ont appris la traduction, le tafsir, et j'espère que nous avons eu l'occasion de lire le tafsir au moins de ces petites sourates que nous lisons régulièrement dans la salle. Ce verset, ces deux versets rappellent que l'atome de mon action sera présenté au serviteur le jour des comptes, mais également l'atome de péché. Ce sont des connaissances que nous avons, ce sont des acquis qui sont en nous, il n'y a rien de nouveau, mais il est important de prendre conscience et de méditer sur ces versets, et de demander à Allah de nous accorder la compréhension et le tawfiq de mettre en pratique, afin que lorsque nous serons exposés à des situations où nous pouvons bien faire, ben nous n'hésitons pas une seconde à faire ces bonnes œuvres. Je donne un exemple. Vous avez pris l'habitude de vous réveiller à 4h du matin, par exemple pour tahajjud et le suhur, le sehri, le repas du matin avant de déjeuner. Si vous arrivez de vous réveiller 3h45 ou 3h30, un peu plus tôt, il n'y a pas besoin d'aller redormir. Non, on dit, mashallah, c'est l'occasion. Et ça te donne la possibilité de multiplier le nombre d'unités de prière, ou de dhikrullah, ou de lecture du Coran. Et là, permettez-moi, bon, les parenthèses, c'est nécessaire. J'écoutais le dars d'un savant récemment qui rappelait que parmi les grandes actions du mois de Ramadan, c'est la lecture du Coran. Ça, on le sait. Mais à quel moment? Principalement la lecture du Coran le soir. Quand l'an de Brie venait voir le Prophète sallam, il le faisait réciter le Coran. Dans certains hadiths, il y a cette connotation, il y a la mention du soir. La lecture du Coran pendant les nuits du mois de Ramadan a plus de valeur que la lecture du Coran en matinée. Donc, quand on a la possibilité de faire des bonnes œuvres, je pense à ce verset, et ça me permet de faire le lien avec ce qu'on appelle Ihtisabul Ajl, qui est une action intérieure également, espoir de rétribution, conviction qu'Allah va nous rétribuer. Donc, prépare et cumule, augmente la quantité de bonnes actions, mais également lorsque je suis exposé à un péché, ne pas oublier que le péché, qu'il soit, le péché, même si c'est un péché mineur, même si c'est juste un regard déplacé, ne pas oublier que ce regard ne sera présenté et on sera questionné à ce propos le jour du Qiyam. Et justement, ce jour, et là le verset se focalise maintenant sur le péché, تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Elle souhaitera, c'est-à-dire chaque personne souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. C'est-à-dire que le jour des comptes, quand le serviteur verra les péchés dans son livret de comptes, il souhaitera ce jour-là, mais il sera bien sûr trop tard, qu'il y ait une grande distance entre lui et ce péché. Alors que de ce dunya, il s'efforçait à réunir les conditions pour pouvoir commettre ce péché, assouvir ses besoins, ses désirs, ses shahwas, et faire ce qu'il avait envie de faire. Je donnerai un exemple. Imaginez qu'un jeune homme soit amoureux d'une jeune fille et que voilà, il sait que c'est une relation qui ne peut pas se faire sans lien de mariage. Et là, on est d'accord, on a des valeurs qui sont transmises dans les trois religions monothéistes. les relations en mariage sont haram dans toutes les religions révélées par Allah Rabbul Izzah. Et donc tout ce que dans ce dunya, ce jeune homme, ou alors cette jeune fille, ça peut être dans les deux sens, il va essayer de faire le maximum d'efforts, na'oud billah, pour gagner le cœur de cette personne, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on fait tout pour rapprocher ce péché, parce que le nafs le désire. Mais le jour de Qiyama, le péché sera tellement lourd à porter que l'être humain souhaiterait que ce péché soit le plus éloigné de lui. Mais bien sûr, ce sera un constat d'échec. Ce sera un constat d'échec. Et le but de ces versets, de l'étude, de la compréhension de ces versets, de l'écoute et de la lecture du tafsir, c'est justement de prendre conscience de ce qu'Allah nous révèle, de ce qui va se passer plus tard. Le jour de Qiyama, ce sont des choses qui ne se trouvent dans aucun ouvrage de connaissance édité et rédigé par l'être humain. Qu'est-ce qui va se passer en ce jour? C'est uniquement le Coran qui nous révèle. Et je vais conclure par un autre verset qui commence ce verset. Et là, justement, Saadi a fait pas mal de tafsir dans le Coran, des versets qui commandent d'autres versets. Il en a cité 3, mais on va juste se limiter à un verset. Que le jour des comptes, le jour où l'injuste mordra les deux mains. Et vous savez l'expression, ça y est en français, je pense qu'il doit y avoir dans d'autres langues, sans mordre les doigts. C'est quand tu as des remords et que tu... Après, je vous laisse chercher l'origine de l'expression. Mais là, dans le verset, on dit que l'injuste va se mordre les deux mains. C'est que tellement de remords et de regrets le jour des comptes, quand la personne va voir les péchés dans son livret d'action, la personne regrettera d'avoir pris ses décisions sur terre. Mais le jour de Qiyamah, le jour où les remords et les regrets, les larmes ne serviront à rien. Alors que dans ce dunya, les regrets, les remords et les larmes, ce sont les conditions premières pour le tawbatun nasuha, pour obtenir le contentement d'Allah. Pour obtenir le pardon d'Allah. On ne peut pas obtenir le pardon divin, on ne peut pas formuler ce qu'on appelle la tawbatun nasuha sans avoir de remords et regretter les péchés. Si on peut pleurer, c'est encore mieux. Mais que le cœur regrette sincèrement, c'est la première condition pour obtenir le pardon de nos péchés. Et malheureusement, mais le jour des comptes, c'est là où on nous projette vers une connaissance qu'on n'a pas, un monde que nous ne connaissons pas. Le jour de Qiyama, larmes et regrets et remords et demandes de taouba, de pardon, ne seront strictement d'aucune utilité. Donc les gens vont se mordre les deux mains et vont dire quoi ? Si seulement j'avais suivi le chemin du prophète, donc suivi le droit chemin, et c'est cette troisième partie qui nous intéresse. Et là, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a en effet égaré loin du rappel, c'est-à-dire loin du Coran, après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Bon, le tafsir d'Assadi est très long, je vais juste résumer. Il dit qu'il y a deux tafsirs. Il y a l'ami en question, avoir pris un tel pour ami, ça concerne avant tout Shaitan. On parle de avoir le fait de prendre Shaitan comme allié. Parce qu'à chaque fois que tu t'engages dans un péché, que ce soit une personne qui quitte sa maison pour aller à la banque, signe un contrat pour emprunter de l'argent, ou une personne qui quitte sa maison pour les faire l'adultère, na'oud billah, ou quel que soit le péché, ça peut être des péchés plus accessibles, la médisance ou autre chose, nous prenons Shaitan comme allié. De quelle façon? Nous écoutons ses insufflations, nous les acceptons, nous ne mettons aucun filtre entre ce qui nous inspire et ce que notre dîn nous demande, et nous le faisons. Ce qui veut dire que nous le prenons comme allié, nous le suivons. Nous le suivons. C'est de cette façon qu'on comprend que la personne dit que j'aurais pas pris un tel pour ami. D'accord? Après, certains moufassins disent qu'il s'agit également de la mauvaise fréquentation, mais on gardera ce premier tafsir. Et dit que c'est Shaitan et ses insufflations qui m'ont éloigné du Coran et du rappel. Parce qu'on ne peut pas être, on ne peut pas suivre les deux chemins en même temps. Je ne peux pas suivre le Coran, les ordres d'Allah, scrupuleusement et en même temps suivre mon nafs et suivre Shaitan. Non. Donc, ce seront les regrets du jour de Qiyama et la conclusion du verset « وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا » et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté, veut dire que Shaitan t'inspire le mal. Et quand il t'a fait tomber dans son piège, quand il t'a eu dans son waswasa et que tu commets le mal, lui il s'en va. Il va travailler d'autres personnes, il va t'amener vers d'autres péchés. Et comprenons que c'est un lien avec le verset dans le nom de la sourate me revient pas. On avait fait ce tafsir il y a quelques années, que dans l'enfer, quand tout sera terminé là aussi, ça nous projette vers les dernières étapes de l'au-delà. Quand Shaitan est dans l'enfer avec les pécheurs, Shaitan va se dédouaner totalement des gens, dit que moi je vous ai incité à faire le mal, alors que vous aviez le rappel qui vient d'Allah, vous m'avez écouté, falatalumuni walumu anfusakum, ne me faites aucune reproche, vous n'avez de reproche à faire qu'à vous-même. Et donc des fois quand on invite les gens vers le haq, on essaie de donner des conseils aux gens d'abandonner tel ou tel péché, et les gens, et certaines personnes ne sont pas contents, disent oui mais c'est mon problème, ne me fais pas de reproche, d'accord? Mais le jour de Qiyamah, c'est Shaitan qui va te dire, qui va dire, na'udhu billah, la personne ne me fait pas de reproche, vous êtes moi-même responsable. Donc Allah nous protège de cette situation catastrophique où la personne voit des péchés le jour des comptes, s'en mord les mains, et que la personne dise, ya hasrata, la personne regrette de ne pas avoir suivi Allah et son messager, et que la personne voit que Shaitan l'a induit en erreur, et Shaitan l'a abandonné, et qu'il retrouve le diable de le Jahannam, qui lui-même se dédouane totalement de la personne. Qu'Allah guide nos cœurs, nous permet de ressentir le ilmullah, d'en être conscient, et que cette prise de conscience nous permet de nous contrôler au quotidien, et qu'Allah nous permet donc de ressortir grandi de chaque journée de jeûne, à la rupture du jeûne ce soir et chaque jour. Demandons à Allah d'accepter notre journée de jeûne, demandez à Allah de nous donner tawfiq lil mazid min at-ta'ad, la possibilité de faire plus de bonnes actions, de valider nos bonnes œuvres, de nous donner les qualités intérieures et de nous donner la force de rester éloigné des péchés pour que nous soyons ses pieux serviteurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillah.